toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire, comme promis avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'une passion française, le pacifisme.
Solennellement aboli entre tous les États. La guerre est morte. Le monde est rénové.
Ans d'histoire. En moins de 100 ans, à Verdun ou à Stalingrad, à Auschwitz ou à Hiroshima, au Cambodge ou au Rwanda, en Irak ou en Tchétchénie, jamais dans l'histoire le sang n'aura autant coulé qu'au XXe siècle. Et l'on comprend pourquoi ce siècle de guerre, de génocide, de guerre civile et de terrorisme fut aussi celui du pacifisme. Mais si le mot ne date que de 1908, l'idée est aussi vieille que le monde. À toutes les époques de l'histoire, dans tous les pays, dans toutes les familles politiques et toutes les religions, il y aura toujours eu des hommes et des femmes pour refuser la fatalité de la guerre, quelles que soient les raisons invoquées pour les y entraîner. France Inter, Philippe Habitboul, le 15 mars 2003.
Bonsoir. Les partisans de la paix ont manifesté une nouvelle fois dans les grandes villes et les capitales du monde pour dire non à la guerre. Nous verrons comment ça s'est passé à Paris et à Madrid.
France Inter.
Elle est à toi, c'est...
Chanson, déguisement, slogan, tout est bon pour dire non à une guerre en Irak, même si elle risque d'éclater dans les prochains jours, les manifestants le savent. Pour autant, pas question de baisser les bras.
C'est sûr que oui, la guerre va être là quand même, mais nous on est là quand même aussi, c'est surtout ça quoi. Pour aider cette humanité qui fout le camp quoi.
Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour dire non et je pense que c'est toujours avant le début de la guerre réellement qu'il faut déjà commencer à se mobiliser. Le soulèvement de l'opinion publique fera que même si cette guerre est déclenchée, on pourra à un moment l'arrêter.
Yves Santamaria, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était la dernière grande manifestation d'un courant de pensée dont vous venez d'écrire l'histoire chez Armand Collin, Le Pacifisme, un livre qui a comme sous-titre une passion française. Pourquoi française? Parce que dans le cas des manifestations que l'on vient d'entendre contre la guerre en Irak en 2003, elles se sont produites dans beaucoup de pays, dans le monde entier même.
Bien sûr. Simplement, il me semble que le pacifisme est un phénomène avant d'être mondial, européen, occidental, qui suppose un minimum de liberté, d'expression et un minimum également de paix. Il est difficile d'être pacifiste en temps de guerre. Mais dans le cas français, cette culture, cet état d'esprit doit tenir compte de trois éléments essentiels pour la France. D'abord le nationalisme moderne dont, en un certain sens, la France de la Révolution française a été la mère patrie. Ensuite, l'amour de la révolution prolétarienne, de la révolution qui peut éventuellement amener la paix sur terre, même si elle doit pour cela faire couler le sang. Et puis également, une troisième dimension, peut-être mineure, mais quand même la dimension coloniale.
Alors il y a une chose qui m'a aussi surprise en vous lisant, c'est que votre livre commence avec la guerre de 70. Alors je sais que le mot pacifisme, vous le dites, il commence à apparaître au milieu du 19e siècle, qu'il a été inventé, je crois, aussi par Émile Faguet en 1908 dans un livre. Mais quand même, on pouvait imaginer que le pacifisme, ça apparaisse en même temps qu'apparaissent les guerres, c'est-à-dire il y a très longtemps. J'ai sous les yeux une très belle formule d'Erasme qui disait « Il n'y a pas de paix, même injuste, qui ne soit préférable à la plus juste des guerres ». Et ça, c'était 5 siècles avant que le mot n'apparaisse, le mot de pacifisme.
Oui, il me semble que 1870 peut être un bon point de départ parce que 1870, c'est à la fois la naissance de l'Allemagne qui va quand même jouer, on va dire, un rôle certain dans les relations guerrières de la France au XXe siècle. Et puis également parce que c'est le moment où l'opinion publique, une partie des élites, mais également ce qu'on appellera les masses populaires, les électeurs, va peser peut-être pas dans la décision, encore que, mais en tout cas dans la fin de la guerre.
Alors l'histoire du pacifisme, c'est un peu celle d'une illusion, comme le prouve d'ailleurs la première grande manifestation du pacifisme, au fond, avec Jaurès qui essaye, à la veille de la guerre de 14, qui essaye en vain de l'empêcher, en espérant, en comptant sur une grève générale de tous les pays belligérants, de tous ceux qui pouvaient s'affronter et qui s'affronteront en 1914, et cela en vain.
Oui, alors, en ce qui concerne Jean Jaurès, il est exact que la mémoire, hein, sinon la légende, a surtout retenu l'image du tribun qui s'est dressé contre une catastrophe. Donc d'ailleurs, il commençait à percevoir certains des traits qu'elle a effectivement revêtus. Mais il ne faut pas oublier que Jean Jaurès est également, Jean-Pierre Chevènement le dirait peut-être mieux que moi, un tribun patriote, certains même diraient à l'extrême gauche nationaliste. Donc il est pris, somme toute, dans le même étau entre le marteau et l'enclume que beaucoup de décideurs, c'est est-ce que la paix est compatible avec l'indépendance nationale? Lui le croit possible, effectivement, jusqu'à la catastrophe générale et en tout cas jusqu'à sa mort personnelle.
En tout cas, ça a échoué. On sait que les socialistes allemands ont refusé, justement, la grève. Certains, ils se sont même engagés du côté de la guerre. Les socialistes français, d'ailleurs, après la mort de Jaurès, juste à la veille de la guerre, les socialistes français vont même se rallier pour la plupart d'entre eux à Edelinger. Cela dit, si ça a échoué, c'est peut-être aussi parce qu'on sous-estimait la gravité, le caractère très meurtrier de cette première guerre mondiale. Hein. Sauf Jaurès, justement, hein, j'ai sous les yeux ce qu'il disait en 14, juste avant d'être tué, juste avant la guerre. Il disait qu'on n'imagine pas une guerre courte se limitant en quelques jaillissements d'éclairs. Ce seront au contraire des collisions formidables, des masses humaines qui fermenteront dans la maladie, la détresse, la douleur, sous les ravages des obus multipliés. Or ça, à l'époque, on ne le prévoyait pas du tout, à part Jaurès. On croyait, on partait vers une guerre fraîche et joyeuse, comme on disait, entre guillemets.
Mais il est toujours difficile de savoir ce que pensaient les gens. Je dirais, moi, en tant qu'historien, il y a des positions. Ceux qui ont décidé la guerre, ou qui pensent que la guerre est une éventualité jouable, ont plutôt un penchant face aux masses, face aux citoyens, a expliqué que les coûts seront relativement modiques pour un rendement excellent. Jean Jaurès, à partir du moment où il est en position de tribun anti-guerre, a tendance à mobiliser les arguments. On va le retrouver à beaucoup d'époques, hein, des gens qui annoncent la catastrophe. En l'occurrence, Jaurès avait raison.
En tout cas, après son assassinat, la plupart des socialistes français vont donc se rallier à la guerre dans des gouvernements d'union nationale. Une guerre qui fut en effet une véritable boucherie, guerre de 14, dont le pacifisme d'ailleurs va ressortir plus fort que jamais.
Marin de toutes les mers, tué par la guerre, je vous appelle, aviateur de tous les ciels, tué par la guerre, je vous appelle, artilleur, fantassin, cavalier de tous les pays, tué par la guerre, je vous appelle, mes 12 millions d'amis, tués par la guerre, vous sur qui les hommes, sourds et aveugles, marchent depuis 20 ans, levez-vous, tous, les vivants veulent recommencer la guerre, je vous appelle!
Et c'était la version de 1937 d'un très beau film d'Abel Gance, tourné en 1919, J'accuse. Jamais sans doute, et on vient de l'entendre, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le pacifisme a été aussi fort, Yves Santamaria. On peut comprendre pourquoi quand on voit le nombre des victimes.
Oui, on peut le comprendre quand on regarde effectivement les froides statistiques, mais encore une fois, ce sentiment, comme chez Jaurès, est en permanence contrebalancé par le sentiment, non pas de la joie de la victoire, mais le sentiment de la réalité d'une patrie qui a failli perdre son indépendance. Donc, je crois que le mélange détonnant de cette peur, de la perte de l'indépendance nationale et de la peur de la mort, de la souffrance, etc., c'est véritablement le cocktail Molotov du pacifisme, un mélange instable, détonnant. On ne peut pas comprendre le pacifisme sans ce sentiment nationaliste exacerbé,
Oui, mais en même temps, on est attaché à ce que cette guerre soit la der des ders. C'était la formule, plus jamais ça. Ça, tout le monde le disait. Et aussi bien à droite qu'à gauche, on a souvent tendance à croire que sous prétexte qu'avec Jaurès au début du siècle, ou dans les luttes contre les guerres coloniales, ou à l'époque de la guerre froide plus tard, c'est plutôt la gauche française qui était pacifiste. Pas du tout. En tout cas, entre les deux guerres, c'était aussi bien la droite que la gauche. Le pacifisme y transcendait tous les partis politiques, tous les clivages traditionnels. Santa Maria.
Oui, alors, c'est vrai qu'il me semble qu'il faudrait distinguer entre les réactions individuelles existentielles. Il est vrai qu'entre le vécu, le rapport au passé d'un ancien combattant de droite ou de gauche, il est le même. Oui. Il est le même. Maintenant, le problème, c'est que ces sensations, cette mémoire, comme on dit aujourd'hui, elle devient ensuite un objet d'échange, de combat sur l'arène politique. Alors, c'est vrai que selon les périodes, la droite a tendance à refouler ce sentiment d'horreur parce qu'elle poursuit des buts nationalistes. Je pense en particulier au début des années 20, lorsque la France intervient en Allemagne dans la Ruhr, etc. Il est bien évident que les gouvernements, à ce moment-là, ne vont pas mettre en avant le souvenir des poilus massacrés dans l'étranger. Alors que c'est la gauche, à ce moment-là, qui invoque le plus jamais ça. Mais après, lorsque la menace nazie se profile, et qu'on se demande si Moscou, Berlin, Moscou, à droite, on hésite. Et on se dit, on va peut-être pas faire la guerre pour Staline. À ce moment-là, la droite va s'emparer de toute la rhétorique pacifiste. Et on va trouver la droite fascisante, y compris chez Brasillac, qui reprend, qui parodie tout le leitmotiv de internationaliste et antimilitaire. Il y aura un antimilitarisme fasciste.
Et puis aussi, il y a eu beaucoup d'illusions entre les deux guerres. Yves Santa Maria, on comptait beaucoup sur la sécurité collective, sur les négociations de désarmement, sur un traité, le traité de Locarno, par lequel l'Allemagne s'engageait à ne pas remettre en cause ses frontières. On comptait beaucoup sur un organisme siégeait à Genève, l'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations, où d'ailleurs en 1929 s'exprimait celui qu'on appelait le pèlerin de la paix, Aristide Briand, persuadé, 10 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on pouvait établir une paix universelle.
Bien, messieurs, les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte. Si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer.
Vous avez sûrement lu dans les journaux que dans un tas de villes, même à Locarno, anglais, japonais, allemands et français nous parlent toujours de la grande paix. Ils vont à Genève à la belle saison où se réunissent toutes les nations. Quand ils ont bien bu et bien discouru, ils retournent chez eux comme ils en sont venus. En les reconduisant à leur beau wagon, tous les bons ballots chantent cette chanson. Vive la, vive la, vive la paix, qu'on nous foute la paix.
Et c'était Ouvrard, qu'on nous fiche la paix, une époque qui vous a, une chanson qui vous a beaucoup amusé, Yves Santa Maria, qui est des années 30, mais elle correspond bien à ce qu'on appelait à l'époque l'esprit de Genève. On croyait que la SDN, comme on le croit encore parfois aujourd'hui pour l'ONU, que la SDN allait effectivement nous fiche la paix, enfin, dans ce sens qu'elle allait préserver la paix.
Et elle pouvait d'autant plus apparaître comme préservant la paix pour des Français, que la SDN, c'est un peu comme l'ONU après 1945, c'est quand même la création des vainqueurs.
Ouais. Donc vainqueurs sont toujours pacifistes.
Hein. La paix, le statu quo et la victoire généralement coexistent assez bien. Donc vu de Paris, oui, après tout, la SDN pouvait apparaître comme une façon de stabiliser un ordre européen qui remettait les Allemands démocratisés désormais à leur place.
Mais enfin, c'est quand même l'époque des grandes illusions. Il y a eu juste un an avant le discours d'Aristide Briand que l'on vient d'entendre, il y a eu un accord, un pacte qu'on appelait le pacte Briand-Kellogg, qui mettait la guerre hors la loi. C'est quand même extraordinaire d'imaginer que par un texte comme ça, on allait maintenir une paix universelle.
Oui, donc ça nous apparaît effectivement aberrant aujourd'hui, dans la mesure où ça n'a pas fonctionné. Hein. On pourrait toujours imaginer ce que les Américains appellent l'histoire contrefactuelle, que les décideurs aient pris les bonnes décisions économiques, que la crise de 29 n'ait pas éclaté, et and so on. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça apparaît comme parole verbale. Bon, faut ajouter qu'à l'époque, pour beaucoup de personnes, c'était davantage une opération de politique intérieure de Briand que le socle d'un ordre diplomatique nouveau.
Hein. Vous voulez dire que Briand faisait de la démagogie?
Ben, Briand jouait une carte, hein. Sa carte, c'était quand même la construction d'un ordre européen s'appuyant sur une économie florissante qui supposait l'intégration de l'Allemagne. Les anglo-saxons disaient toujours, l'Allemagne ne payera que si elle a les moyens de payer. Donc, il fallait l'insérer dans le nouvel ordre européen et si possible mondial.
En tout cas, il croyait véritablement à la paix, ce qui explique d'ailleurs que 10 ans plus tard, eh bien, on croit encore pouvoir préserver la paix lorsqu'à Munich, le président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre français, de l'époque, Édouard Daladier, le premier ministre britannique Chamberlain signait avec Mussolini et Hitler un accord par lequel il croyait pouvoir préserver la paix en abandonnant à Hitler la Tchécoslovaquie. C'était le 30 septembre 1938.
Enfin, à 1h35 du matin, un accord est signé par les 4 hommes d'État. Le président du Conseil s'adresse au pays.
J'ai la certitude aujourd'hui, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des 4 grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée.
Et l'on sait ce qui a suivi cette déclaration de Daladier en 1938. Un an plus tard, c'était la guerre. C'est là où je parlais d'illusion quand même, Santa Maria. C'était énorme. Est-ce qu'il s'y croyait vraiment? On dit que Daladier, quand il est revenu, parce que Chamberlain, le premier ministre britannique, quand il est revenu en Angleterre, a dit « It's peace for our time », c'est la paix pour notre temps. Daladier, on l'a entendu, disait la même chose. Mais Daladier était assez sceptique sur l'accord qui était signé quand même. Parce que un pacifiste en face de Hitler, ça veut dire quoi?
Je dirais que Daladier était certainement, en tant qu'élu et interprète de la population française, un représentant du pacifisme français. En fait, il était quand même un homme d'État conscient du rapport de force. Donc, il va sans dire qu'il ne pouvait pas arriver à la radio en disant « j'ai prévu un petit sursis, mais vous savez, de toute façon, ça va péter hein. ». Donc, c'est en privé, il me semble que les historiens ont rendu, sinon hommage, en tout cas ont reconnu qu'il avait une appréciation des rapports de force qui l'a conduit à essayer de repousser un petit peu l'orage de façon à ce que la France se remplume, ce qu'il va essayer de faire justement en durcissant le temps de travail, la répression anti-ouvrière.
Etc. Oui, lui, donc, il a des arrière-pensées. Il y a un autre parti, enfin, il y a un parti politique qui a des arrière-pensées aussi en France. Au tout début de la guerre, il faut le rappeler, puisque il a condamné cette guerre, renvoyant dos à dos, en fait, les alliés, enfin, la France, l'Angleterre d'un côté, et l'Allemagne de l'autre, c'était le parti communiste hein, qui a été pacifiste jusqu'au bout, d'où son interdiction d'ailleurs par Daladier en 1939.
Oui, cette interdiction était le résultat à la fois d'une situation bien française, hein, puisque le PC n'a pas été interdit en Grande-Bretagne, par exemple. Mais il répondait à une demande certainement forte de l'opinion, mais il pouvait se justifier dans la mesure où, de fait, le Parti communiste français s'est aligné à 100%, je vois pas comment on pourrait dire le contraire, sur la diplomatie soviétique. Or, le jeu de Staline, à ce moment-là, c'est le moins qu'on puisse dire, en contradiction avec les objectifs de sécurité français.
Oui, parce qu'en août 39, il faut le rappeler, il signe un accord avec Hitler. Hein, ça a duré pendant 2 ans jusqu'à l'invasion de la Russie. Alors là, le Parti communiste va rentrer avec toutes ses forces dans la clandestinité, dans la résistance, dans le conflit armé. Alors, à l'issue de ce conflit, après toutes les illusions des années 20 et 30, Yves Santa Maria, on aurait pu croire que le pacifisme allait un peu pas disparaître, mais en tout cas s'atténuer quand on voit toutes les illusions, tout ce en quoi on a cru avant la guerre. Or, pas du tout, il va reprendre à deux occasions. D'abord, surtout en France, c'est les guerres coloniales qui vont en quelque sorte le relancer.
Oui. Ces guerres coloniales dont les médias nous ont rappelé qu'elles avaient connu un coup d'envoi, même si on ne le savait pas à l'époque, le 8 mai 1945 à Sétif, elles s'inscrivent bien dans un état d'esprit qui me semble semblable à 1918, c'est-à-dire que la France a quand même pris un certain nombre de coups, mais à la différence de 1918 où la France se sentait vraiment dans le camp des vainqueurs, là la France
est certes partie prenante du Conseil de sécurité, elle a signé la capitulation allemande,
elle mais la France... Elle s'est battue beaucoup quand même aussi, au tout début et à la fin de la guerre.
La France s'est quand même battue au début, mais le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances. Et à la fin, il faut quand même rappeler que la majorité des troupes françaises qui ont été engagées dans le conflit sont précisément des Arabes, des pieds noirs sur du matériel américain.
Mais les guerres coloniales, voilà, on a vu à l'occasion des guerres coloniales, notamment la guerre d'Indochine, le Parti communiste très vite se manifester contre la guerre, puis la guerre d'Algérie.
Voilà. Alors le problème, c'est que cette guerre coloniale intervient dans un contexte de guerre froide où les enjeux Est-Ouest se mêlent aux enjeux Nord-Sud. Donc le Parti communiste français, pour s'en tenir à lui a une attitude qui obéit essentiellement à des considérations de géopolitique nationale. Et si on avait le temps, on le dirait, y compris pour la guerre d'Algérie.
Guerre d'Algérie qui commence en 1954, date à laquelle justement Boris Vian écrivait une des chansons les plus célèbres du pacifisme.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Et c'était Boris Vian, le déserteur, une chanson longtemps interdite sur les antennes nationales, à l'époque où la radio était une radio exclusivement nationale, et Santa Maria, bon, qu'on peut entendre aujourd'hui, à l'époque donc où se terminait la guerre d'Indochine en 54, où commençait la guerre d'Algérie la même année. Alors là, il y a, c'est évidemment une chanson pacifiste, comme l'a été, vous le disiez d'ailleurs, le Parti communiste. C'est vrai qu'au lendemain de la guerre, on le voit à l'origine d'un mouvement pour la paix qui a été considérable, qui allait bien au-delà d'ailleurs des frontières du seul Parti communiste. Il y a eu, avec la fameuse colombe de Picasso, il y a eu l'appel de Stockholm aussi pour le désarmement nucléaire.
Oui, alors si je puis apporter une petite précision, le Parti communiste français après 1945 n'apparaît pas comme pacifiste, mais il apparaît d'abord comme le parti le plus patriotique de France. Oui. Les militants communistes.
Mais c'est pas tout de suite, c'est au début de la guerre.
Voilà,
froide,
voilà,
47,
voilà. C'est en 1947 qu'il y a le tournant. Oui. Hein, à partir du moment où l'Union soviétique risque de se retrouver en guerre contre la France, à ce moment-là, le Parti communiste français va mobiliser la rhétorique pacifiste. Mais jusque-là, le pacifisme était assimilé à la trahison munichoise, fasciste, etc. Hein. André Marty fait des cours aux jeunes communistes où il explique que les communistes n'ont jamais été antimilitaristes, c'était une invention de Pétain, l'antimilitarisme. Mmh. Donc, par contre, 47, vous avez parfaitement raison, là, on assiste à un déferlement de propagande pacifiste, puisque la bombe atomique, à ce moment-là, est la propriété américaine, et les communistes français vont mobiliser à la fois contre la bombe atomique, et puis, détail très important, contre l'OTAN. L'OTAN est une des cibles, depuis l'époque jusqu'à nos jours, hein, une des cibles essentielles du PC français. On retrouve ça d'ailleurs dans la campagne de l'extrême gauche actuelle contre l'Union européenne, où on dénonce toujours la suggestion à l'OTAN avec les mêmes arguments.
Et la bombe, vous disiez, qui fait peur, alors que pour certains de ses défenseurs, comme le général de Gaulle, qui n'avait rien d'un pacifiste, eh bien la bombe atomique dont se dotait la France au début des années 60 était au contraire un facteur de paix plus efficace que le pacifisme.
Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques.
Eh bien, il a fallu ce temps-là à l'onde de choc pour parvenir ici.
Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne, une force qui, dans le monde très dangereux où nous nous trouvons, doit nous donner la capacité de dissuader les autres de nous attaquer jamais, c'est-à-dire de nous donner la plus grande chance de paix qui soit possible.
Et c'était le général de Gaulle dans les années 60, disant en substance, Yves Santamaria, que ce qui peut préserver la paix, c'est moins le pacifisme, enfin il parle pas de pacifisme d'ailleurs, c'est que l'équilibre de la terreur. Au fond, l'alarme la plus terrifiante qui soit, c'est un facteur de paix.
De fait, il est difficile de dire le contraire, en Europe en tout cas, depuis, oui, de 1945 jusqu'à nos jours. De fait, l'historien peut constater que l'existence de cette arme a coïncidé avec une période de paix, encore une fois, pour l'Europe.
Pour l'Europe, hein, parce que sauf en ex-Yougoslavie où il y a eu quand même la guerre, en revanche, depuis Hiroshima, les guerres se sont multipliées sans que les pacifistes, qui n'ont jamais désarmé, on l'a entendu au tout début de l'émission, à l'occasion de la guerre en Irak, ils soient pour quelque chose et puis l'empêcher. Au fond, on a un peu l'impression, en vous lisant Yves Santamaria, que l'histoire du pacifisme depuis ses débuts, c'est un peu l'histoire d'un échec.
Globalement,
au niveau
international, en ce qui concerne l'Est et l'Ouest, il est clair que ça ne s'est pas joué là-dessus. Simplement, sur certains théâtres d'opération, je pense en particulier au Vietnam pour les États-Unis, en Algérie pour la France, l'existence d'un puissant courant d'opinion hostile, non pas à la guerre, mais à cette guerre-là menée contre cet adversaire par le gouvernement en place, a quand même très largement contribué à infléchir la balance des forces, qui se jouait également, bien sûr, sur le terrain, les armes à la main.
On dit aujourd'hui, dans la campagne pour le référendum du 29 mai, on dit que l'Europe, c'est aussi, au fond, un gage de paix. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'historien, ne lisant pas dans le marc de café, tout ce qu'il peut dire, c'est que la paix en Europe depuis 45 n'a certainement pas été préservée par les pacifistes en ce qui concerne l'éventuel affrontement entre l'OTAN et l'armée rouge. Par contre, l'idée de paix, la culture de paix en ce qui concerne les relations franco-allemandes, a très certainement joué un rôle d'intégration, oui, au niveau des élites, voire des peuples.
Merci Yves Santamaria. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre vraiment passionnant, Le pacifisme, une passion française, qui vient de paraître aux éditions Armand Collin, et également un des auteurs d'un livre collectif, Comment se fait l'histoire, publié aux éditions La Découverte. Vous avez pu entendre des extraits d'une archive pâtée, du journal de votre année, disponible en VHS aux éditions Montparnasse Vidéo, et puis également du film J'accuse, d'Abel Gance, distribué chez Film Office. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes à minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser et Ophélie Vivier, ainsi qu'à Anne Comilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un général américain qui n'avait rien d'un pacifiste, la victime des Indiens, habite à Little Bighorn, le général Cut-